Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bleu, blanc, orange. Les Américains désignent avec ces trois couleurs les trois types de défoliants chimiques utilisés au Vietnam pour détruire la végétation. En terminologie militaire, il s'agit d'armes de harcèlement. Leur usage répond à un double objectif, détruire le couvert végétal pouvant servir d'abri et affamer l'adversaire en détruisant ses récoltes, en stérilisant les sols. Ces produits dérivés du chlore sont analogues aux herbicides vendus dans le commerce. Depuis 1961, les Américains en ont déversé 50 000 tonnes au Sud-Vietnam. Les Américains utilisent une deuxième gamme de produits chimiques, les gaz lacrymogènes CS1 et 2, classés parmi les armes réputées incapacitantes. On les utilise à des fins dites humanitaires, puisqu'elles permettent théoriquement de débusquer l'ennemi sans le tuer. Mais le monde scientifique pousse un cri d'alarme. 70 savants venus de 12 pays, y compris les États-Unis et le Vietnam, viennent de se réunir près de Paris pour dénoncer la menace que fait peser sur la population vietnamienne l'usage intensif de produits chimiques dont on ne connaît pas tous les effets sur l'équilibre de la nature. Le professeur américain Pfeiffer nous a donné ses photographies. De 30 à 40% des forêts du Vietnam ont été détruites avec leur faune, à l'exception des tigres. Les savants rapportent que les tigres se sont multipliés et ont appris à associer le bruit du canon avec la présence de chair fraîche. Des scientifiques se posent une question encore plus grave. Les défoliants favorisent-ils, comme naguère la thalidomide, la naissance d'êtres monstrueux ou mal formés? Les hommes de science n'en sont pas encore certains, mais le problème est posé par le professeur nord-vietnamien.
Dans les jours qui suivent, apparaît en Malais une espèce d'asthénie intense. Puis, si ces femmes sont enceintes, n'est-ce pas, elles mettent après au monde, quand elles sont venues au Vietnam, des enfants difformes, d'une proportion très trop élevée pour admettre que ce soit une chose naturelle.
Une expérimentation a été faite sur un certain nombre d'animaux, et ces expérimentations montrent qu'à des doses relativement faibles, les produits en question peuvent produire des malformations énormes des animaux dans 100% des cas. Il a même été calculé qu'une femme vietnamienne absorbant dans une citerne où le produit est resté longtemps, ce produit finirait par en absorber une dose qui correspondrait à ces doses qui sont tellement nocives pour les nouveau-nés d'animaux qui ont reçu le produit pendant leur gestation.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Alors, eh bien, aujourd'hui, on va vous parler de une affaire qu'on avait, dont vous avez déjà parlé en octobre dernier, à savoir le procès intenté par Trantonia contre Monsanto et les géants de l'industrie des pesticides, donc dans le cadre donc, des conséquences sanitaires pour elles de l'utilisation de l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Le procès avait été reporté plusieurs fois, on vous en avait parlé en octobre, et donc tout récemment, là, il y a 15 jours maintenant, le tribunal d'Evry s'est déclaré incompétent pour juger, ce qui a plutôt donné raison aux entreprises de l'industrie. Alors, eh bien, pour faire ça, on va parler de plusieurs choses, parce qu'on était aussi donc, le week-end dernier à la marche contre Monsanto et les géants de l'industrie des produits phytosanitaires qui est organisée à Paris. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on propose, c'est une émission en plusieurs temps avec d'abord, pour commencer, un retour. Donc, on avait invité en octobre dernier Tom du collectif Dioxine Vietnam pour nous parler un peu de ce procès qui devait avoir lieu. Et ensuite, on fera une vignette, petit reportage de la manifestation qui a eu lieu donc, le week-end dernier. Et on finira toujours avec une intervention de Tom qu'on a interviewé pour qu'il nous explique un peu quelles étaient donc, les conséquences de ce rendu au tribunal d'Ivry. Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'action en justice qui est donc en cours auprès du tribunal d'Evry et qui est donc menée, disons, au nom de Trantonia, ou en tout cas c'est Trantonia la plaignante principale, si j'ai bien compris. Et donc, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est ce procès ? Tu as dit que ça durait depuis 2014, si j'ai
c'est
bien
ça.
Compris.
Alors, en fait, c'est un procès donc, qui dure depuis 2014. C'est l'année où Trantonia en fait, a déposé une plainte au tribunal de grande instance d'Evry. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça se passe en France ?
Oui, alors déjà, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la plainte ? Pourquoi elle porte plainte et contre qui ?
Donc elle porte plainte contre 26 firmes qui ont fabriqué l'agent orange, qui ont fabriqué ou fourni l'agent orange, dont deux qu'on connaît particulièrement, qui sont Monsanto, donc aujourd'hui Bayer Monsanto, qui était voilà, le principal fabricant de l'agent orange,
et l'autre et aussi du Roundup, qui est très Monsanto, il est beaucoup connu pour ça dans l'époque contemporaine,
Et l'autre entreprise qui est très connue, c'est aussi Dow Chemical, qui a aussi produit de l'agent orange.
D'accord, donc ça c'est donc 26 entreprises chimiques qui sont donc visées par la plainte de Trantonia. Et elle, alors pourquoi est-ce que c'est elle qui porte plainte et c'est quoi le motif de sa plainte ?
Alors, c'est elle qui porte plainte parce qu'en France, depuis en fait, il me semble depuis que Hollande en fait était président, donc c'est entre 2012 et 2013, il y a une loi qui a permis en fait aux ressortissants français. Parce que Trantonia, à la suite des Françaises, de porter plainte pour des faits qui sont passés à l'étranger. Et puis, voilà. Et ça, c'était pas possible avant sous Sarkozy, mais c'était possible là, donc à partir des années 2013. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en 2014, Trantonia a porté plainte contre ces firmes.
Ok, parce que donc on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Elle-même, elle a été victime donc de l'agent orange en étant à l'époque de la guerre du Vietnam agente de liaison au sud Vietnam.
C'est ça.
Elle a été exposée. Donc tu l'as dit, elle a comme de nombreuses femmes, elle a eu des enfants qui ont été victimes aussi de malformations causées par l'agent orange et en particulier par la dioxine. Et si je me trompe pas, elle-même est malade aussi de la dioxine à l'heure actuelle.
C'est ça, donc elle a perdu un enfant quand elle était au Vietnam. Et puis ses enfants aujourd'hui sont eux-mêmes malades, et elle aussi elle est malade, elle a des problèmes au cœur, elle a d'autres problèmes, elle a un diabète, donc elle est touchée effectivement.
D'accord, donc c'est d'abord en sa qualité de victime de l'agent orange qu'elle porte plainte. Et elle porte plainte contre ces 26 entreprises, 26 multinationales de la chimie pour ce qui lui arrive à elle. Mais finalement, le procès, il vise pas seulement à obtenir une réparation pour Trantonia, il vise plus généralement à mettre en cause ces multinationales. Alors, juste, peut-être qu'on peut préciser que c'est pas le premier procès contre les fabricants de l'agent orange qui a lieu. Mais c'est le premier qui a lieu en France ?
C'est ça. Alors, il y a eu plusieurs procès pour l'agent orange. Notamment, il y a les victimes en fait, vietnamiennes qui ont essayé de porter plainte aux États-Unis, enfin, qui ont porté plainte dans les années 2000. Mais en fait, la Cour suprême a refusé que ces victimes puissent avoir un procès. Donc, c'était une association de victimes vietnamiennes qui s'appelle la VAVA, qui à l'époque avait. Qui avait porté plainte, mais ça s'était refusé. En fait, c'était refusé parce qu'il y avait un autre procès, en fait, dans les années 80, mais qui cette fois a été mené par les vétérans américains, donc contre des entreprises qui ont fabriqué l'agent orange. Et en fait, ces vétérans américains, dans les années 80, ils ont été dédommagés à hauteur de 180 millions de dollars. Et en fait, par ce procès, aux États-Unis, la justice, en fait, quand une entreprise veut faire taire les plaignants, ils indemnisent. Ils indemnisent en échange de leur silence.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un accord à l'amiable, qu'on appellerait, je crois, en droit français, un accord à l'amiable, et un plea deal en anglais, où finalement, le fait d'indemniser et d'arriver à un accord d'indemnisation fait que le procès n'a pas lieu. Donc, si je ne me trompe pas, dans ce procès qui opposait des soldats, donc des vétérans américains aux fabricants de l'agent orange, Le début de l'instruction du procès avait permis de mettre à jour des documents qui prouvaient notamment que Dow Chemical connaissait la toxicité de l'agent orange et de la dioxine dès les années 60 et qu'ils ont quand même choisi de le commercialiser, de le vendre notamment à l'armée américaine et d'exposer les soldats. et que ensuite cette indemnisation de 180 millions de dollars qui a été décidée, elle a été attribuée à une fondation qui ensuite a redistribué des indemnisations aux vétérans, mais seulement aux vétérans. Et donc, y compris ceux dont les enfants ont aussi subi des malformations, les enfants et les petits-enfants, qui ont eux aussi, donc, ben, puisque c'était une contamination à la dioxine, ils ont eu les effets aussi sur plusieurs générations de la dioxine, mais en fait, il n'y a que les vétérans qui ont été indemnisés par cette fondation. Enfin, c'était un accord à l'amiable qui finalement a permis aux fabricants de s'en sortir assez tranquillement.
Voilà.
Voilà. Et donc de pas avoir à exposer au grand jour leurs documents internes et leur connaissance des ravages que pouvaient provoquer leurs produits. Tout ça est resté classifié en fait à l'issue de l'accord. Tous les documents qui avaient été instruits ont été classifiés et n'ont pas été rendus publics, si j'ai bien compris.
En plus, il y a un exemple, c'est que Marie-Monique Robin, qui est réalisatrice, qui a notamment réalisé un documentaire qui s'appelle Le Monde selon Monsanto, explique en fait qu'il y avait eu des réunions entre Dokimikos et Monsanto et que en fait ces documents montrent qu'en fait ils connaissaient la toxicité du produit, quoi. Ils savaient qu'il y avait certaines impuretés, donc la dioxine, qui était particulièrement toxique, hautement toxique.
D'accord. Et donc ce procès, ces différents procès ou non-procès plutôt qui ont eu lieu aux États-Unis, ils ont quand même permis d'accumuler une masse de documentation et d'avoir des mobilisations aussi des gens qui ont fait tout un travail, en fait un travail militant, un travail d'activiste pour documenter ce qui s'est passé et ce dont bénéficie en fait, si j'ai bien compris, aujourd'hui la défense de Trantonia, et qui peut aussi se reposer sur ce qui s'est déjà passé avant aux États-Unis pour essayer cette fois de faire aboutir l'action en justice et de faire condamner les multinationales.
C'est ça. Bah en fait, Trantonia en fait est défendu par donc Maître William Bourdon, donc son cabinet, avec notamment les avocats Amélie Lefebvre et Bertrand Repault. Et en fait, ils ont eu accès effectivement à tous ces documents que la BAVA possédait pour essayer de porter plainte aux États-Unis. Donc c'est vraiment une pile de documents qui était assez énorme. D'ailleurs, ils ont passé des étés aussi donc à décortiquer ces documents. Et tout ça, ça sert aussi à ce procès-là qui se passe en France. Donc finalement, c'est vrai qu'au fur et à mesure, les avocats ont pu bénéficier des expériences des plaignants passés, parce qu'en fait, la VAVA aussi est en contact avec Trantonia. On est en contact aussi avec la VAVA, qui est l'association principale au Vietnam pour les victimes de l'argent orange.
Parce que c'est ça qui est difficile aussi dans ce genre de procès, c'est de pouvoir prouver que le dommage, il a vraiment été causé par le produit. Donc là, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur ça.
Alors déjà, il y a de nombreuses personnes qui ont fait des recherches scientifiques. Alors là, par contre, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais par exemple, en France, il y a une thèse de pharmacie qui a été menée sur ce sujet-là, sur les conséquences de l'âge orange. Je pense qu'il y a aussi pas mal de papiers scientifiques qui sont sortis ces dernières années pour prouver en fait que les conséquences de l'âge orange, et surtout les causes en fait, les causes de cette maladie, c'est l'âge orange. Parce qu'aujourd'hui, les firmes, elles vont dire: vous avez un cancer, vous avez un diabète, vous êtes malade, qu'est-ce qui prouve que c'est l'âge orange, la dioxine, qui a causé ça? Et en fait, ils vont vraiment juste pour ça. Alors qu'il y a eu des recherches, alors que scientifiquement, il y a des preuves. Mais après, on connaît aussi la faculté de Monsanto de falsifier certains documents scientifiques. Hein. Marie-Monique Robin en parle bien dans son documentaire. Et donc, voilà. Et en fait, aussi, l'enjeu du procès, c'est que quand il y aura la plaidoirie, il va y avoir une expertise qui va être menée sur Trantonia, une expertise médicale. Donc, les entreprises vont vouloir dire: c'est faux, vous n'êtes pas malade, ce n'est pas l'âge orange qui a causé ça. C'est un enjeu majeur, effectivement.
Ouais, bien sûr. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la dioxine, elle a cette particularité aussi de toucher les gens génération après génération. Donc, Trantonia, elle fait partie des gens qui ont directement subi l'épandage de l'agent orange, mais depuis, il y a 4-5 générations d'enfants qui sont nés, et dans certaines régions, avec des taux complètement délirants de malformations, d'affections diverses et variées qui sont attribuées à la dioxine et à la pollution à la dioxine. Donc effectivement, on comprend bien l'importance de ce procès et sa dimension historique, en fait, puisque c'est peut-être le premier qui va vraiment arriver devant une cour et qui ne sera pas interrompu par un accord ou par un, voilà, par un accord financier ou par un non-lieu de la part de la juridiction en charge de l'instruction du dossier. Donc c'est un procès historique et on espère vraiment que ça aboutira ne serait-ce qu'à la reconnaissance de la responsabilité des entreprises. Puisque voilà. Tu utilises le terme d'écocide, mais finalement, c'est pas ça le chef d'inculpation. Là. On n'a pas ça en France.
Malheureusement, ça n'existe pas encore. Et on en parle parce qu'en fait, le terme écocide, donc, il est né quand même avec l'agent orange. Mm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui portent ce terme, notamment Véa Cabanès, Marie Toussaint, qui militent à notre affaire à tous et qui veulent faire porter l'écocide au niveau de l'Union européenne. Mais plus qu'un écocide, c'est un crime chimique. Mmh. Donc ça ne sera pas dû au procès, mais nous on le pense. C'est un crime chimique, c'est un crime contre l'humanité.
Oui, c'était écocide, c'est un crime contre l'environnement, il s'agit aussi d'un crime contre l'humanité. Tu as parlé de millions de victimes.
Et puis voilà. Et aussi, c'est aussi un combat pour montrer que finalement les entreprises ne doivent pas être impunies. C'est un exemple d'un capitalisme qui par certaines de ces entreprises, ont des actions très néfastes, dangereuses pour l'environnement et vraiment qui tue et qui touche des générations de personnes. Donc effectivement, je pense que c'est un combat plus large. Je pense qu'en France, les gens peuvent dire finalement ça me concerne pas, c'est une personne vie de la mienne, mais quand même Monsanto, c'est important de faire condamner Monsanto, et aujourd'hui j'ai pas connaissance en tout cas de procès où Monsanto a été condamné. Il y a eu des indemnisations en 2020 en juin là, donc l'entreprise a annoncé le versement de 10 milliards pour les victimes du glyphosate, les victimes américaines du glyphosate. Donc ça, c'est encore une indemnisation, mais j'ai pas eu souvenir encore de condamnation, et c'est important de faire condamner aussi ce genre d'entreprise.
Ouais, bien sûr. Et on se disait on parlait en tout cas des accords financiers et des accords d'indemnisation que les grandes multinationales de la chimie avaient passé avec des victimes qui font qu'elles n'ont jamais été condamnées en justice. Et on disait que, par exemple, un sixième du chiffre d'affaires de Bayer Monsanto passe dans ces accords d'indemnisation. C'est budgété, ça fait partie de leur budget, ce qui prouve aussi à quel point ils savent qu'ils sont nocifs, mais que ça fait partie de leur commerce, c'est le business as usual, et ils prévoient ça. Donc peux-tu, au contraire, nous montrer à quel point le procès, là, il a des enjeux politiques, et il me semble avoir repéré dans la communication du collectif que vous présentez aussi ça comme ce procès comme un... En tout cas, ayant comme objectif la justice sociale, environnementale et raciale. Et donc, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, effectivement, on en a parlé, on a lancé une tribune pour les journées du 9 et 10 août dernier. C'était la journée internationale des victimes de l'agent orange. On avait organisé un événement qui s'appelle les 36 heures. Et effectivement, nous, on dit que voilà, c'est pas qu'un fait isolé dans son coin. C'est aussi un exemple. Il faut lutter pour une justice environnementale, donc ça on comprend bien, parce que c'est un exemple d'écocide, et ça, et c'est important qu'en fait que les entreprises ne doivent pas être impunies quand elles commettent de tels actes sur ce qu'on appelle on peut appeler la nature. C'est aussi un commun pour la justice sociale, parce qu'en fait en Vietnam c'est des personnes qui sont très vulnérables. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui aussi sont mises de côté finalement. Et ces personnes-là, il faut qu'elles reçoivent des aides, il faut qu'elles puissent avoir de l'argent, du financement, etc. Parce que pour l'instant, elles sont plutôt mises à l'écart de la société. Or, il faut beaucoup plus d'hôpitaux, d'endroits qui sont adaptés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un exemple de la société qui est totalement validiste, par exemple. Et c'est aussi un exemple de justice raciale, parce que l'agent orange, il y a certains auteurs comme Ramzi Kentchayon dans La nature et la champ de bataille, La nature est un champ de bataille, qui parle d'exemple de racisme environnemental. Ça veut dire que aujourd'hui, enfin, faut pas oublier que le Vietnam était un pays qui a été colonisé par la France, et que la guerre du Vietnam a suivi la guerre d'Indochine. Et aussi, c'était à cette époque-là, on voulait mépriser les corps. Enfin, l'armée américaine avait un certain mépris des corps, mais de manière globale, les Occidentaux avaient un mépris des corps. Des personnes vietnamiennes qui étaient appelées à l'époque les Vietcong, mais il y avait différents surnoms, il y avait la propagande raciste qui circulait à l'époque. Les personnes vietnamiennes, on les appelle les Nha Quê, ça vient de là. Donc il y a beaucoup de termes aujourd'hui qui ont une origine coloniale et qui étaient aussi utilisés pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est un exemple de racisme environnemental, parmi d'autres. Mm-hmm. Voilà, là, c'est l'âge orange. Mais on peut citer d'autres exemples. La lutte contre le chlordécone aux Antilles, c'est un autre exemple. Voilà, les essais nucléaires dans le Sahara, c'en est un autre. Vous parliez du nucléaire au début, bah, ça, c'est un exemple. Pareil, les essais nucléaires dans la Polynésie, c'est exactement pareil. Il y a vraiment plein d'exemples de racisme environnemental. Et finalement, c'est une lutte parmi d'autres. Mais qui montre en fait que voilà que les corps qu'on peut appeler donc racisés, donc qui sont non blancs, finalement sont victimes de manière particulière d'actes tels que l'agent orange ou que le chlordécone, etc. quoi.
Mmh. Et ce qu'on constate aussi avec les actions en justice précédentes, c'est que les indemnisations finalement elles sont d'abord allées aux Américains, aux victimes américaines. Parce que peut-être que dans l'esprit à la fois de la justice et surtout des multinationales, il y a des vies qui valent plus que les autres et les vies américaines méritent d'être indemnisées. Et pour l'instant, les vies vietnamiennes, elles ne coûtaient pas bien cher. Quoi. Il y a ça aussi. Enfin, en tout cas, c'est une des composantes du racisme que de... Certes, c'est Trantonia qui porte le procès, c'est elle la plaignante et c'est elle qui porte les choses. Mais finalement, le but, c'est aussi à la fois d'exposer la responsabilité des multinationales et de faire une jurisprudence pour la reconnaissance... peut-être d'autres victimes dans le futur et la reconnaissance des victimes qui, espérons-le, un jour ouvrira peut-être la porte à des réparations. Mais enfin, en tout cas, sur l'histoire de la jurisprudence, déjà, si tu saurais nous en dire un peu plus.
Déjà, bon, aussi pour revenir sur le nombre de victimes, je pense qu'on n'en a pas parlé pour l'instant.
Oui, c'est vrai.
Donc on estime à 4,7 millions de personnes qui ont été exposées à l'âge orange et entre 3 et 4 millions de victimes, donc des gens qui sont malades. Qui ont été tués, voilà, par l'âge orange. Et donc, sur cette histoire de jurisprudence, effectivement, bah, Trantonia, elle se bat pas que pour elle, elle le dit. Aujourd'hui, elle a 78 ans. À 78 ans, on a peut-être envie de faire autre chose que vouloir se rentrer dans un procès qui dure quand même depuis 2014 et elle est malade. Donc, Trantonia, elle se bat pour toutes les victimes aussi. Pour les millions de victimes du Vietnam, pour celles qui sont partout dans le monde, qui sont victimes de l'âge orange. Et effectivement, c'est en fait ce qui est important, c'est que si elle arrive à condamner Monsanto, parce que son but c'est de condamner Monsanto, c'est-à-dire elle refusera toute indemnité si elle est proposée, ça c'est certain. Donc le but c'est de condamner. Et si les entreprises sont condamnées, ça peut créer jurisprudence. Ça veut dire que si demain il y a des pays où la loi permet un ressortissant, par exemple, je parle en Australie, il y a des espoirs vietnamiennes et des personnes vietnamiennes veulent porter plainte contre ces firmes, elles pourront s'appuyer sur ce procès qui est allé en France pour les faire condamner aussi. Et c'est vraiment là que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas individuel, c'est un procès d'une personne contre des firmes, c'est quand même un procès qu'on peut qualifier de David contre Goliath, mais c'est pour aussi pour des millions de personnes partout dans le monde.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est Zoom Écologie et on écoutait Sweeping Premises avec Hunger for a Way Out. Alors, eh ben, on propose maintenant un petit reportage en direct de l'émission, non, en direct de la manifestation qui avait lieu donc, ce week-end à l'initiative des différents collectifs contre Monsanto.
Bonjour mes chers amis, bonjour à vous qui m'avez soutenu depuis de si nombreuses années. Bonjour à vous qui êtes aujourd'hui, malgré la pluie, malgré le beau temps, d'être venus ici, nous et ensemble pour combattre contre Monsanto. Après 7 ans d'efforts, de travail acharné de mes avocats, nous sommes arrivés à cette date du 10 mai où les juges du tribunal de Évry ont donné raison à Monsanto, à Hercules, à Dow Chemical et aux autres et aux 11 autres sociétés responsables d'avoir empoisonné ma terre et mon peuple. Les juges ont donc décidé que mes demandes étaient irrecevables. Pour moi, c'est leur décision qui est irrecevable. Nous en sommes à la 4e génération de victimes, avec plus de 4 millions de victimes non reconnues et non indemnisées par les sociétés ayant produit ou livré l'agent orange dioxine pendant la guerre. Si je suis déçue de la décision des juges du tribunal d'Évry, je ne suis pas triste car être arrivé jusque-là est déjà une victoire. Et c'est notre victoire. Aujourd'hui, en cette journée de la marche contre Monsanto, nous ne chantons pas notre victoire, mais nous crions notre colère. Nous crierons notre colère jusqu'à ce que les céréales empoisonneurs soient jugés et justice soit rendue aux victimes. Le combat sera encore long. Il se peut que je n'en vois pas l'issue, car nous savons que les sociétés céréales empoisonneuses jouent la montre. Espérant que je m'éteigne soit du fait de mon âge, soit à cause des maladies dues à l'agent orange. Le monde change. J'ai confiance en la jeunesse porteuse des valeurs de solidarité, de respect de la planète, de la nature. Je vous transmets la responsabilité de poursuivre mon combat qui est devenu le vôtre. Merci et en avant.
Nous avons le plaisir d'accueillir Naïma de zéro chlordécone, zéro poison.
Bravo et merci à vous toutes qui avez bravé le mauvais temps pour venir crier avec nous l'exigence de justice environnementale, l'urgence d'abandonner ce modèle agricole mortifère subventionné par Monsanto et tous les voyous de l'agrochimie aidés par des politiques complices. Au collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, nous prenons le zéro pesticide de synthèse, le zéro poison dans la terre et dans la vie. Ce sont bien les poisons du colonialisme, du capitalisme, du racisme, de la corruption qui ont conduit à l'empoisonnement au chlordécone de 92% de la population martiniquaise, 95% de la population guadeloupéenne. À la contamination pour 7 siècles des terres, des littoraux, des rivières, constituant crimes d'écocide et de génocide. C'est le deuxième crime contre l'humanité à notre encontre après l'esclavage colonial et je pèse mes mots. Dès 1963, la toxicité du chlordécone. Ce pesticide organochloré, persistant, perturbateur endocrinien est avéré. Les alertes, les études supplémentaires se sont succédées très tôt, y compris en France, avec les refus multiples de la commission des toxiques dans les années 1968, le rapport Snegaroff, fin d'année 1970, le classement comme cancérigène possible par la CIRC, les interdictions en Europe, dont la France, sauf pour le bananier. Un substitut non toxique existait déjà depuis les années 1910. Mais pourtant, la Martinique détient aujourd'hui le triste record mondial de cancer de la prostate. Endométriose, retard de développement psychomoteur, prématurité, présence de chlordécone dans le cordon ombilical des enfants. Des générations sont sacrifiées. Notre colère est froide, notre détermination sans faille. Sur nos terres déjà empoisonnées, nous ne voulons plus que des pesticides de synthèse soient épandus. Le vivant paie un lourd tribut face à l'utilisation de ces poisons trop souvent non sélectifs. Nous disons stop à l'importation de poisons. Exigeons que les principes de précaution soient appliqués et que des politiques volontaristes soient mises en place pour un changement de modèle agricole. Que les terres saines, car il en reste, soient sacralisées. Nous vous renvoyons notamment à notre pétition « Une terre saine pour une santé pérenne ». Vérité, justice et réparation pour toutes. Le feu de la justice, le feu de la vie qui brûle en nous est plus chaud, plus chaud, plus chaud que Monsanto. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que Monsanto. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que Monsanto. Merci beaucoup.
Du coup, oui, on est là aussi, notamment parce qu'on soutient le collectif Vietnam Dioxine, mais aussi les collectifs zéro chlordécone, zéro poison. Donc on est là aussi pour réclamer une justice pour toutes ces victimes d'écocide qui sont malheureusement pas assez visibilisées dans tout ce qui est lutte environnementale. Alors que on parle de Monsanto, on parle de notre assiette, on parle de ce genre de choses-là, mais on parle pas des vies humaines, en fait, à côté, qui sont sacrifiées à ce prix-là, surtout. Donc voilà, c'est pour montrer aussi qu'il y a tellement de visages derrière cette lutte et que c'est important qu'on soit là aussi pour ça. Voilà.
Juste, est-ce que tu veux bien dire en deux petits mots ce que vous venez de coller ?
Ce que vous venez de coller, ouais. On vient de coller justice pour les victimes de l'agent orange, ouais. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas de justice pour les victimes de l'agent orange, malheureusement. Ouais. Personne n'a été réellement débouté, surtout aux États-Unis. Tout le monde a été débouté, désolé. Ouais. Tout le monde n'a jamais eu justice et surtout là, par exemple, Trentonia qui porte le procès aujourd'hui vient d'être... Ouais. De perdre son procès, de perdre le procès et d'avoir un refus, et c'est vraiment un affront, sachant que dans tous les cas, notamment aux États-Unis, même les victimes n'ont jamais réussi à réclamer justice, et qu'aujourd'hui, Trentonia est vraiment un dernier espoir, et donc on réclame vraiment une justice parce qu'on considère que c'est vraiment un écocide, et c'est pas. Et derrière écocide, on veut dire qu'il n'y a jamais eu de justice, mais c'est un respect pour ces vies perdues en fait.
Ce qu'il y a sur ta pancarte,
il y a écrit justice bourgeoise et raciste, peuple révolté.
Et toi,
il y a écrit pas de lutte environnementale sans lutte anticolonialiste. Et agent orange, chlordécone, écocide.
Merci. Est-ce que tu veux dire deux mots de pourquoi tu es là ou...
Parce que je suis représentante du collectif des ouvriers et des ouvrières agricoles empoisonnées par les pesticides de Martinique. C'est un collectif qui lutte, qui s'est constitué en 2019, mais dont les membres luttent depuis 1972 pour la reconnaissance du crime d'empoisonnement et raciste dont ils sont victimes, parce que les descendants des maîtres esclavagistes, les béquets, les ont contraints à épandre des produits phytosanitaires sans aucune protection, et y compris lorsque les femmes étaient enceintes. Et aujourd'hui, c'est un véritable génocide, un génocide par inaction, parce que l'État les laisse décéder à tour de bras pour ne pas réparer les préjudices subis, parce que l'État est complice aussi pour avoir accordé des autorisations de mise sur le marché de ces produits. Et donc aujourd'hui, c'est un collectif qui lutte pour des revendications d'ordre sanitaire, mais aussi social et économique. C'est des gens qui touchent une retraite entre 130 et 700 euros après 20, 30 ou 45 années de travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Oh putain!
Attention!
Bélec, 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 tu charges!
Mais ils ont balancé un truc de gaz au milieu.
Allez les gars, Donc on est avec le collectif pour le triance de Gonesse, qui est quand même donc une des luttes en fait agricoles en fait en Île-de-France, ce qui n'est pas si évident. Et alors, du coup, quel sens ça fait de venir là à la manifestation contre Monsanto pour le triangle de Gonesse?
Oui, la colère de ceux qui luttent contre Monsanto est la même que la colère du collectif pour le triangle de Gonesse, pour les terres de Gonesse, puisqu'on vient d'apprendre la décision du gouvernement. Après l'abandon d'Europa City, le gouvernement sur cet espace agricole avait l'occasion de donner un signe fort de vers où on veut aller pour transformer l'agriculture, puisqu'il faut rappeler que le Val d'Oise est le département où il y a le plus faible taux d'espace agricole en culture biologique. C'est le dernier département de France. On est simplement à 2 ou 3 % d'agriculture biologique. On a des porteurs de projets qui seraient prêts à démarrer sur le triangle de Gonesse pour une nouvelle agriculture, pour des nouvelles pratiques agricoles sans pesticides, développer la bio. Et le gouvernement avait la possibilité d'encourager les porteurs de projets qui travaillent avec le groupement Karma. Et il a choisi de maintenir la gare, une gare qui est en plein champ. Il n'a rien à proposer pour mettre autour de cette gare. Mais le Premier ministre est venu la semaine dernière spécialement pour dire que les travaux de la gare continueraient, qu'on la ferait coûte que coûte. Et ils essayent de trouver des projets pour bétonner ces terres agricoles où il y aurait des projets justement pour aller vers une autre agriculture. Donc on rejoint totalement la manifestation d'aujourd'hui qui est l'exemple concret sur un territoire d'Île-de-France sur lequel le gouvernement a raté l'occasion de donner un signal qui aurait prolongé le geste de l'abandon d'Europa City, qui pour nous était un geste écologique, mais on s'aperçoit que le gouvernement n'avait pas du tout cette préoccupation de l'écologie comme nous.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on appelle terre agricole, en fait, désigne des réalités qui sont en fait très très différentes, et qu'en fait le combat pour le maintien des terres agricoles dans un espace donné, il ne peut pas être découplé dans une perspective écologique du combat pour une certaine terre agricole qui serait écolo avec les porteurs d'autres projets que l'agriculture intensive en fait.
Oui, bien sûr, notre combat qui était au début contre Europa City était bien évidemment, et on se satisfait que ce projet à la Dubaï ait été mis en échec. Donc c'est une conception de la société qu'on a mis en échec en obtenant l'abandon d'Europa City, mais c'est clair que depuis le début, on avait la volonté de défendre l'espace agricole pour développer une autre agriculture, une agriculture du futur. On voit les conséquences que ça a de toute l'agriculture depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a été orientée et utilisée pour accroître la production en utilisant les pesticides et les engrais chimiques. On voit tous les problèmes de santé que ça pose, y compris que pour la préservation des sols, on voit que c'est la destruction également des sols. On rend des sols vivants, on les rend de plus en plus inertes, et donc on est obligé de mener de l'agriculture artificielle. Donc on veut aller vers l'agriculture paysanne, et on voudrait qu'en Île-de-France, il y ait de vrais paysans qui s'installent, et pas simplement des agro-industriels qui sont prêts à utiliser le sol pour toutes les façons, pour uniquement du rapport financier, strictement financier, sans tenir compte des questions environnementales et des questions sociales également.
On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que Monsanto. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que Monsanto. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que Monsanto. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud.
Searching for that friend of mine. Caught the devil in disguise. Still deep history in her pie. All them things made me high. Make me sit and wonder why. I never gave up.
on a good day. Stuck on replay just to feel a little more than before my FB cheated a little. Wiggle like the whole of Strictly wanted to settle. I should have wanted more, but I was willing to settle. Now I'm high like a crock pot, steaming up the kettle. Covers with my feelings like I'm Malcolm in the middle.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Et eh bien, on vous propose, donc on reçoit Tom du collectif Vietnam Dioxine pour nous expliquer un peu les conséquences du rendu du tribunal d'Ivry qui donc s'est déclaré incompétent pour juger la plainte de Trantonia contre Monsanto et les géants de l'industrie du pesticide. Donc, pour continuer cette émission, on est avec Tom du collectif Vietnam Dioxine, qu'on avait donc déjà reçu il y a quelques mois, pour nous parler donc du procès qu'avait intenté Trantonia aux géants de l'industrie des polluants phytosanitaires. Et donc, pour nous dire un peu ce qu'il en est du procès, donc on a appris que la justice était déclarée donc irresponsable pour ce procès-là. Après de multiples renvois, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé concernant cette décision ?
Tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Du coup, effectivement, le tribunal donc d'Evry a rendu sa décision le lundi 10 mai dernier. Donc ça faisait depuis le 25 janvier, depuis les plaidoiries du procès, qu'on attendait donc la décision. Et en fait, donc le tribunal d'Evry donc a rendu sa décision. Et en fait, il a déclaré irrecevable donc les demandes de Trantonia, donc qui est la victime franco-vietnamienne donc de l'âge orange, qui avait intenté donc un procès contre les 14 fabricants de l'âge orange. L'âge orange qui donc a fait un 4 millions de victimes. Et en fait, le tribunal d'Evry donc a écouté en fait les demandes notamment de Monsanto. Qui estimait en fait que cette entreprise pouvait se prévaloir de ce qu'on appelle de l'immunité de juridiction. Ça veut dire en fait que, grosso modo, le tribunal a considéré que les entreprises avaient obéi au gouvernement des États-Unis, alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises avaient répondu à un appel d'offres, elles étaient conscientes. Et elles ont produit donc l'agent orange et dioxine en toute connaissance de cause. Elles n'étaient pas obligées de produire un produit comme ça. Donc voilà. Donc c'est ce qu'a décidé donc le tribunal donc d'Evry. Donc le 18 dernier. Et c'est pour ça que nous, notre côté au collectif Vietnam Dioxine, on est particulièrement mécontent. On est en colère. On est déçu. Mais comme dit Trantonia, on n'est pas triste. De toute façon, on savait que la procédure allait être encore très longue. Et donc très vite, Trantonia donc et ses avocats ont déclaré qu'ils feraient appel de cette décision. Donc ce procès ira jusqu'en cours d'appel. Ouais. Donc ça peut encore durer donc quelques années.
Ouais. Juste pour qu'on comprenne bien, du coup, cette irresponsabilité, elle vient, donc elle est justifiée par le fait que le tribunal, si j'ai bien compris, a estimé que les industriels n'avaient pas le choix et que du coup, ils n'étaient pas dans leur responsabilité propre. C'est ça l'argument, si j'ai bien compris.
C'est ça. C'est exactement ça. En fait, finalement, le tribunal ne s'est pas déclaré donc compétent, puisqu'en fait, si. Donc pour info, donc, l'immunité de juridiction, c'est un privilège qui consiste à soustraire les sujets internationaux, qui sont les États en fait, et les organisations internationales, et donc ce qu'on appelle leurs agents respectifs, à la juridiction nationale d'un État. Ça veut dire que, par exemple, en France, un tribunal ne peut pas juger les actions de l'État des États-Unis. Mmh. C'est ça. Et en fait, donc, elles ont voulu en fait, s'insérer par cette brèche-là. En fait, si on a une émanation de l'État, si on était obligé de produire l'agent orange, finalement, ce n'est pas nous qui sommes responsables, c'est l'État des États-Unis. Et donc ça, effectivement, c'est le jour des plaideries, les avocats avaient émis un certain nombre de ce qu'on appelle de fin de non-recevoir, et donc l'immunité de juridiction était donc dans la première.
Dans les faits, parmi les arguments qui étaient donnés par les avocats Trantonia, c'était de dire que, en fait, ces entreprises ont bien été en tant qu'entreprise libre de répondre à ces appels d'offres et de faire ce qu'elles voulaient faire, c'est ça?
Tout à fait. Et c'est un peu un comble parce que dans un État qui est capitaliste et libéral comme les États-Unis, on ne voit pas comment un État pourrait obliger une entreprise à produire un poison comme ça. Et donc c'est ça aussi. Et surtout, en fait, en tout cas, l'argument des avocats de Trantonia, c'est de dire. Ces entreprises ont répondu à un appel d'offres et en plus, elles connaissaient la toxicité du produit. Donc ça, en fait, c'est que finalement, elles étaient conscientes et elles ont répondu de leur propre gré. Et en plus, elles n'étaient pas obligées de produire un produit toxique, en fait. L'État des États-Unis n'obligeait pas, en fait, à les entreprises comme Monsanto, Dow Chemical, Union Royale ou Arcul à produire de l'argent orange avec de la dioxine. Elles étaient capables et elles pouvaient produire de l'argent orange qui n'était pas aussi toxique que ce qui était produit. Donc c'est surtout ça la faute en tout cas de ces sociétés.
Ouais. Donc là, pour ce qui est de cette séquence judiciaire, là ça s'achève à ce niveau-là. Pour autant, ce n'est pas forcément fini dans l'absolu puisqu'il y a des recours qui peuvent être posés, j'imagine. Oui, mais alors du coup, c'est quoi la suite pour Trantonia et ses avocats et le collectif?
Ouais, alors pour Trantonia, donc la suite, c'est que ses avocats donc vont faire appel de cette décision. Donc ça veut dire que hier, le procès donc avait lieu donc au tribunal d'Evry. Demain, elle aura lieu à la cour d'appel. Alors j'ai pas encore tous les détails, mais j'imagine que ça sera sans doute à la cour d'appel de Paris, on peut imaginer. Donc c'est une procédure qui peut durer plusieurs années parce qu'il faut instruire le dossier, il y aura sûrement des audiences de mise en état, donc ça peut encore durer plusieurs années. Donc finalement, donc, les entreprises gagnent encore quelques années. Donc voilà, ça peut être assez long. Donc ça, c'est du côté de Trantonia. Les avocats ont aussi affirmé donc, à la conférence de presse qui avait eu le lendemain de la décision que ils allaient demander finalement des documents internes qui prouvent en fait qu'il y a eu des échanges au sein de ces entreprises comme de Monsanto et Dow Chemical et qu'elles connaissaient en fait la toxicité de la dioxine de l'agent orange. Et ça c'est un point important. Pourtant c'est effectivement dans les pièces du dossier, mais c'est vraiment quelque chose qui est important et je pense que c'est un des axes sur lesquels ils vont travailler parce qu'en fait un, elles connaissent la toxicité et deux, elles ont voulu cacher finalement au gouvernement des États-Unis cette toxicité. Donc on peut le lire dans un des livres, donc Agent Orange, Apocalypse, Venom d'André Bouilly. Donc ça c'est pour Trantonia. Et nous, bah, du coup, pour le collectif, de toute façon, on s'était préparé à ce que le jugement soit défavorable, soit favorable, et on savait que ça allait durer quelques années. Parce que même si Trantonia avait remporté ce procès donc en première instance, eh bien, ça va encore durer plusieurs années puisque les entreprises adverses auraient fait appel. Donc nous, bah, on va continuer à signer à Trantonia, à effectuer des actions, à parler de l'âge orange et puis voilà, à essayer de monétiser et faire en sorte que l'agent orange soit connu de l'opinion publique. Donc ça, ça change pas. Finalement, dans notre stratégie, ça ne change rien. C'est juste qu'on aurait préféré effectivement que Nia remporte ses premiers procès. C'est aussi beaucoup d'énergie, quoi.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, comme tu dis, ces procès, ils vont de toute façon jusqu'à l'épuisement de tous les recours, que ce soit d'une partie ou de l'autre. En fait, c'est des combats judiciaires qui, de toute façon, vont jusqu'après aux juridictions ultimes, d'où le fait qu'elles fassent jurisprudence et d'où l'enjeu qu'il y a dans ces procès.
C'est ça. Après, par exemple, si je prends l'exemple de Pauvre François, de mon allié, l'agriculteur qui a gagné contre Monsanto, je ne sais plus si c'était allé jusqu'à la Cour d'appel à la Cour de cassation.
On n'a pas la référence.
Ouais, alors donc Paul François, c'est donc un agriculteur qui a porté plainte contre Monsanto, donc ces dernières années. Alors c'était pour l'utilisation d'un produit je sais plus exactement quel produit c'était, mais c'était un produit en particulier. Il me semble que c'est glyphosate. Ouais, ça devait être le Roundup, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc il y a eu plusieurs années de combat. Et finalement, Paul François a eu son jugement confirmé il y a pas longtemps, parce que Monsanto, je ne sais plus s'il est allé en cours d'appel ou de cassation, mais il me semble que, en tout cas, Paul François avait fait plier Monsanto à la fin, quoi. Et ça, c'était ça a lieu. Je crois que la décision était tombée en octobre dernier. Je crois, donc voilà, c'est assez récent. Je crois qu'il s'est allé jusqu'à la Cour de cassation.
Bah oui, c'est
donc ça. C'est quand une entreprise, voilà. Ça, c'est quand, en fait, quand c'est favorable à un plaisant pour les grandes entreprises, ça peut jusqu'à la Cour de cassation, puis après, voilà, les entreprises vont pas plus loin. Par contre, dans d'autres cas, si c'est défavorable à la victime, il me semble que ça peut aller en tout cas jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je ne suis pas spécialiste en droit, mais c'est une hypothèse, donc ça peut encore durer un peu plus longtemps, quoi.
Oui, sinon aussi pour du coup aller un peu plus loin que la question du procès là, est-ce que tu peut-être veux nous dire un mot de la participation du collectif Vietnam Dioxine à la marche contre Monsanto, donc qui a eu lieu samedi dernier, et peut-être aussi des prochaines étapes de la mobilisation, s'il y a déjà des rendez-vous de prévus ou en tout cas des choses de prévues là dans les semaines et les mois qui viennent.
Ça marche. Donc effectivement, samedi dernier, donc 5 jours après donc la décision du tribunal. On a organisé, on était co-organisateurs de la marche contre Monsanto et l'agrochimie. Donc c'était la 9e édition, donc avec une quinzaine d'organisations comme Combat Monsanto, le collectif de Reclaire des Cannes au Poison, Génération Future, Greenpeace, Youth for Climate, Extinction Rebellion, etc. Donc là, l'idée, et ça tombait bien, on savait que ça allait être un événement important pour nous, 5 jours après la décision du tribunal. Donc il y avait, disons, entre 500 et 1000 personnes lors de cette marche. Et on avait 3 revendications principales, dont la première était de faire porter toutes ces thématiques donc, de justice environnementale, comme l'agent orange ou le chlordécone. Ça, c'était vraiment nous, en tout cas, l'axe sur lequel en tout cas on était légitime à parler. Puis il était aussi question de dénoncer le système agro-industriel et puis de proposer des modèles alternatifs plus viables. Et donc effectivement ça avait le samedi, et c'était important aussi d'associer le combat de l'âge orange à d'autres combats comme celui du chlordécone, parce que l'actualité était aussi assez riche cette année avec le risque de non-lieu dû à la prescription. Et donc, c'était aussi l'occasion de soutenir notre Antonia, parce qu'elle était en cortège de tête, et de montrer voilà, qu'elle n'était pas tout seule et qu'on allait la soutenir. Parce que, enfin, voilà, donc, elle est malade, et pour elle aussi, c'est un sacré coup, donc à ce moral, hein, même si elle est hyper courageuse, et puis elle avait montré qu'elle ne lâchera rien. C'était aussi, c'est aussi important qu'on aille dans la rue pour la soutenir et pour montrer qu'on est là, quoi.
Sur le, donc, entre les différentes prises de parole qu'il y a eu à cette manifestation, au début de la manifestation, puis en fait les différents composantes qui appelaient, on pouvait se rendre compte aussi que en fait derrière ces industriels des pesticides, en fait c'est tout un système de domination en fait, qui se met en place, donc qui repose sur la question agricole, mais qui en fait se développe notamment sur les questions coloniales et postcoloniales, qui est en fait très fort, et c'est quelque chose qui est un thème qui est assez qui est apparu assez évident en fait pour ceux qui étaient à la manifestation.
Mmh. Ouais, tout à fait. C'est vrai que en fait nous semble aussi important en fait de considérer tous ces problèmes, hein, qui sont liés, qui ont des dynamiques assez communes. Parce qu'en fait, effectivement, on voit qu'il y a des dynamiques qui sont soit coloniales, dans le sens de la colonialité, des dominations à travers la nature, la race, le genre, etc. Et pour nous, c'était aussi important de le montrer, cette colonialité, et puis aussi finalement de soutenir d'autres collectifs, d'autres luttes en fait, qui par exemple se déroule en France, et on voit qu'il y a des dynamiques qui sont les mêmes mais dans notre propre pays, donc en France, là je pense à la Guadeloupe et à la Martinique. Donc voilà, c'était aussi pour montrer que les premières victimes, en tout cas, c'était effectivement des personnes racisées, etc. Et donc c'était important qu'on soit là, qu'on tâche de tête, et puis qu'on montre qu'on existe, parce qu'effectivement c'est peut-être des thématiques qui sont parfois moins traitées, en tout cas dans le passé, et je trouve ça très bien qu'il y en a qui fassent des efforts aussi pour en parler plus. Mais voilà, je pense que c'était important que ces thématiques soient en avant pour cette édition, et en tout cas nous on a vraiment voulu la faire porter à travers cette orga. Et puis ça montre aussi que dans les luttes, parce que c'est un terme collectif, c'est pas forcément le terme qu'on préfère, mais on parle d'alliance, et je pense que c'était des alliances qui étaient intéressantes pour cette édition. Et en tout cas, on était assez satisfaits des alliances qu'il y a eu, même si c'est pas toujours facile et qu'on a souvent des points de vue différents, mais en tout cas, c'était un pas, et pour la suite, je pense que c'est assez important.
Très bien. Ouais, s'il y a des rendez-vous qui sont un peu appelés prochainement concernant ce combat.
Ouais, tout à fait. Alors, nous, on aura un gros événement normalement le 10 août prochain, parce qu'en fait, ça sera les 60 ans du premier épandage de l'agent orange, qui a eu lieu donc en 1961, et c'est une journée internationale. Et donc là, dès le lendemain de la marche Monsanto, là, on va commencer les préparatifs de cet événement. Mmh. Parce que c'est un événement qu'on veut international, transnational, et on sera en relation avec différents pays où on a des personnes qui militent, que ce soit au Vietnam, je pense aussi en Allemagne, on a des personnes du collectif. Donc on veut vraiment faire un événement international, et vraiment un événement dédié aux victimes, donc de l'agent orange.
Ce sera à Paris, ça?
On va réfléchir au format. Okay. C'était à Paris, et puis avec la crise sanitaire, on va voir comment on peut dater. L'année dernière, on l'avait fait en virtuel, et puis cette année, on verra ce qu'on peut faire.
Ouais, très bien. Bon, et bonne continuation. On souhaite bon courage au collectif et à Trintonia pour la suite du procès et des procédures. Et puis, bon courage alors.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'était donc Zoom Écologie. Et on espère que ça vous a plu. Et nous, on était contents de faire un peu de reportage en manifestation. Ça faisait longtemps. On suivra cette affaire de procès intenté contre Monsanto et sa suite. On vous tiendra au courant, on essaiera de se tenir donc au courant du prochain procès, et on rappelle donc l'événement qui se passera en août concernant donc l'anniversaire, le triste anniversaire des épandages de l'agent orange. On suivra pareil pour vous donner des informations. On vous souhaite une bonne soirée, on vous laisse avec Musique Antilles.